Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Mon père me raconte que quand je nais, donc il a 33 ans, et ben ma mère lui dit « Bon mec, faut faire une déclaration fiscale ». Et il lui dit quoi ? Il n'avait jamais fait de déclaration fiscale.
Voici l'histoire d'une transmission un peu particulière et qui a grandi dans le Pays Basque avec des parents anarchistes, se méfiant de l'argent et réfractaire à l'idée de posséder. Elle va nous raconter son enfance dans ce climat particulier où il faut toujours être prêt à partir, à bouger vite, où la liberté est la valeur qui prime sur toutes les autres, au détriment de la sécurité ou du confort. Mais très vite, notre invitée s'est rendue compte que le hors-système, ça n'était pas vraiment pour elle. Et que la thune, ça avait aussi ses bons côtés. Bonne écoute. Bonjour Eki.
Bonjour.
Alors Eki, tu as 37 ans, tu es designeuse et décoratrice d'intérieur entre Paris et Marseille et tu es venue nous parler de thune avec un prisme familial assez particulier. L'argent pour toi, c'est un sujet important ?
Oui, ça a été un sujet qui, à un moment donné, je dirais, dans ma vie, a pris beaucoup de place, a peut-être même pris la première place. Je suis la fille de deux anars qui, par ailleurs, sont deux profils hyper sympathiques, plutôt insérés, mais qui ont quand même décidé, en toute conscience, de vivre une vie libre, délestée de toute considération économique et matérielle. Au point quand même d'oublier des basiques et des choses pratico-pratiques comme épargner, préparer sa retraite. On pourrait en lister plusieurs, mais aussi préparer moi mes études, donc mettre de l'argent un peu de côté, posséder accessoirement un jour sa maison. Et puis ça pouvait aller jusqu'à aussi ne même pas posséder de mobilier. Donc en fait, par exemple, chez moi, il n'y avait pas de canapé. Pour la petite histoire, j'ai mon premier canapé, j'ai 17 ans. Donc ils sont allés assez loin quand même dans l'expérimentation d'une vie hors système ou je sais pas s'ils sont hors système ou anti-système, mais en tout cas libres de toute considération économique et matérielle. Et fatalement, à un moment donné, sur un enfant, il y a des conséquences.
Il n'y avait pas de canapé, donc tu t'asseyais par terre ?
Ouais, je m'asseyais à la marocaine. Par ailleurs, ma mère est marocaine, donc il y avait aussi un goût pour cette esthétique-là chez moi. Et il y avait énormément de lits, pas de table à manger. Tout ça était complètement travaillé autrement. Et à 17 ans, moi, c'est la folie. Je rentre chez moi après le lycée, il y a un canapé fly dans le salon. Et c'est vraiment des gens qui avaient aussi, en fait, pour principe que il fallait pouvoir voyager libre et léger. Et donc, même le mobilier, c'était pesant. Même le mobilier, c'était quelque chose qui pouvait ralentir dans la liberté d'action. Et parce que, notamment, on a aussi beaucoup déménagé.
Chez les anarchistes, il y a l'idée d'abolir l'argent et de remettre... Parce que l'argent, c'est un facteur d'inégalité, c'est un vecteur de violence. Et l'idée, c'est de l'abolir pour remettre au centre des valeurs d'entraide, de solidarité, de responsabilité collective. Tes parents, c'est ça qu'ils revendiquaient ?
Ouais, complètement. Il y a toujours eu beaucoup de monde à la maison, il y avait un vrai goût de l'autre. C'était pas du tout le sujet de l'autarcie ou de la rupture. Au contraire, c'était une très grosse mise en commun, voire communauté. Ils venaient de milieux modestes. Je pense que leur luxe à eux, ça a été de se dire « Par contre, on va vivre notre vie à nous, telle qu'on l'entend et comme on la désire. » Et ça veut dire qu'ils vont saisir le premier projet qui passe, si ça leur parle, si ça leur chante. Ils ont dégainé souvent très vite. Par exemple, une proposition professionnelle qui est dans un autre pays, ils l'acceptent. Ils font une concertation d'une soirée et puis je dirais que le mois d'après, on était parti. C'est des gens aussi qui vont prendre beaucoup le vent. Parce que en n'étant pas enraciné, en n'ayant aucune fondation en tout cas économique ou matérielle, c'est tout bête, mais vous êtes aussi sous la coupe d'un bailleur, un redressement fiscal et qui a dû vendre l'appartement dans lequel on vivait et on était super bien par ailleurs, il a fallu partir. Et tout ça, ça nous a amené, je pense, j'ai vécu avec eux jusqu'à mes 23 ans, on a déménagé 30 fois ensemble. Donc j'ai pratiquement déménagé une fois tous les 18 mois, si on fait une rapide moyenne. Et ça, c'était tout ça, c'était au nom avant tout de leur liberté d'être. Moi, je suis native de Bayonne, mais après, on a vite gravité Pays Basque, mais côté espagnol, donc on est passé à l'autre côté de la frontière. Et puis, en fait, s'en suivent 30 déménagements. Et moi, ils me faisaient rater les rentrées scolaires, donc à un moment donné, ils prennent conscience de ça. Et le corollaire positif aussi de leur mode de fonctionnement, ça a été qu'ils m'ont confié à un couple d'amis artistes peintres qui vivent en Ariège. Je suis restée 12 mois avec cette famille que j'adorais par ailleurs. Et je me souviens, à l'époque, ça avait fait scandale dans ma famille. Parce qu'en fait, on me confiait comme ça, et eux, ils étaient restés en Espagne, terminés en fait de régler leurs affaires. Et je pense que par ailleurs, je dois beaucoup à cette famille sur mon métier aujourd'hui parce qu'ils étaient artistes peintres. Donc, c'est les corollaires positifs aussi de cette vie très spontanée, à l'instant, au jour le jour. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de mouvement. Donc ça, je leur dois.
Quand on est anarchiste, là aujourd'hui, on parle de la conséquence que ça a sur. Sur l'argent dans nos vies. Mais par ailleurs, ça a une dimension politique aussi très forte.
Ouais.
Ils ne votaient pas, tes parents
Ah si, ils étaient hyper politisés, au contraire. Mais par contre, ils ont toujours été dans une opposition entre de la subversion et de la révolution. Donc c'est des gens qui n'étaient pas du tout en rupture. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui avaient un tissu relationnel très riche, qui étaient autant, je dirais, au contact de couches de populations modestes que de gens très bourgeois. Ma mère a été une militante très active contre le franquisme à l'époque. Et moi, je les ai entendus débattre jusqu'à la fin. Parce que ma mère n'est plus de ce monde, mais je les ai entendus débattre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, à la fin, il concluait vraiment en disant « Je pense que le pouvoir est à la nuance. » C'était leur conclusion. Plus de nuances.
Donc une conclusion très modérée.
Très modérée. Qui pourtant, eux, ont fait l'expérience de quelque chose que moi, j'ai considéré d'assez radical d'une certaine façon. En termes économiques et matériels, c'était le niveau zéro. Même aucune capacité même à articuler des sommes et des masses d'argent. Il n'y avait vraiment pas un euro sur aucun compte, nulle part.
Mais ils travaillaient.
Ouais.
Donc tu dis qu'ils travaillaient tout le temps.
Tout le temps, mais en indépendant. Donc c'est quand même déjà un pas de côté. C'est quand même des gens qui ont pratiquement eu aucune expérience salariée. Pratiquement.
D'accord.
Ils en ont chacun une, je dirais, dans leur parcours. La petite histoire pour ma mère, ça a fini en prud'homme, qu'elle a gagné, mais ça a quand même fini en prud'homme, donc c'est dire qu'elle était peut-être pas si ronde que ça, malgré tout. Et mon père, c'est sur la fin de sa carrière professionnelle, ça a été les 10 derniers kilomètres, j'aime bien lui dire, et ça l'a aidé. Parce que c'est la seule fois dans sa vie où, à un moment donné, il a touché du pognon. Vraiment du pognon.
Oui, parce que
grâce au salariat.
Ouais, parce que c'était des indépendants, mais c'était pas comme aujourd'hui la grande époque des indépendants. Enfin, c'est un sujet de toute façon parce que c'est pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'indépendants que
ouais.
Les indépendants s'en sortent tous super bien, loin de là. Mais en attendant, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, les indépendants
c'était
des années 70, 80, 90.
Et c'était le bordel hein, au niveau juridique. Moi, quand j'ai commencé, parce que j'ai aussi mis mon nez dans la retraite, quand il a fallu faire des montages de dossiers, je vous raconte pas le sketch, il nous a fallu 2 ans pour remonter 40 ans de vie comme ça, avec des boîtes qui ont été ouvertes, qui ont été fermées, des dépôts de bilan. Ils ont cotisé en moyenne chacun à 4 ou 5 statuts juridiques différents, oscillant entre de l'artisanat, du commerçant, du prestataire de services. Enfin, ça a été tentaculaire et très polymorphe.
Donc, ils ne voulaient pas de chaîne, ils ne voulaient pas d'ancrage à une entreprise, mais ils ne voulaient pas non plus appartenir à un corps de métier.
Et c'est exactement ça. Ils se sont pas mariés, il n'y avait pas de testament, il n'y avait pas de domicile fiscal. Donc, c'est des gens qui n'avaient vraiment aucune attache matérielle et économique, mais même symbolique. Le lien qu'ils avaient, c'était une promesse d'amour qu'ils se sont tenus entre deux. Et d'ailleurs, je me souviens, ils se sont souvent jurés que si l'un ou l'autre, à un moment donné, chutait, l'autre viendrait, promettait de le soutenir. Voilà. Et ils sont allergiques à l'administratif, c'est terrible. Mon père me raconte que quand je nais, donc il a 33 ans, et ben ma mère lui dit « Bon mec, faut faire une déclaration fiscale ». Et il lui dit « Quoi ?» Il n'avait jamais fait de déclaration fiscale. Sauf que pour avoir un enfant, à un moment donné, il faut quand même déclarer tout ça à l'administration. Et il se retrouve à aller aux impôts et à dire « Bon, je vais vous dire la vérité, je viens d'avoir un enfant, je dois faire une déclaration fiscale. J'ai jamais déclaré quoi que ce soit à l'administration fiscale. Et ça, c'est la partie romantique de l'histoire. Il tombe sur un agent des impôts qui est fasciné, qui se déporte du bureau, vient le voir et lui dit « Permettez-moi de vous serrer la main, félicitations, j'ai jamais entendu ça », et qui va le régulariser. Et l'histoire de mes parents, c'est aussi ça, c'est que bien des fois, on se dit « Bon, bah là, c'est le moment où ça va cracher, il va se passer la fois trop, ou le truc qui va peut-être vraiment potentiellement les faire plonger », et en fait, ça génère aussi sur leur chemin, quand même, des attitudes et des comportements assez bienveillants qui va les sauver. 2-3 fois qui va les sauver. Mais on n'aura pas tous dans notre parcours la chance de croiser ce fameux agent des impôts qu'on remercie de tant de souplesse à l'égard de mon père qui, en fait, quand même était complètement fiscalement hors des clous depuis 10 ans. Et ils ont beaucoup de jalons comme ça. La spontanéité va aussi amener de la débrouille, des systèmes D et des rencontres qui vont devenir assez clés.
Mais ils ont quand même décidé de faire un enfant.
Ouais, alors ça, non, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils avaient plutôt acté qu'ils n'en feraient pas, donc ils étaient plutôt partis pour être cohérents, jusqu'au jour où ma mère tombe enceinte et pourtant elle portait un stérilet. Donc l'histoire, c'est ça, et cet enfant, ils le gardent. Et par ailleurs, moi, derrière, déroule une vingtaine d'années vraiment de... J'ai bien kiffé ma vie avec mes parents, c'était vraiment chouette. Ils m'ont bien fatiguée sur le côté matériel. Je dirais que ça m'a coûté quand même après une bonne dizaine d'années, quoi. Moi, quand j'ai été jeune adulte, pour remonter tout ce process et rattraper le temps qu'ils m'ont fait perdre aussi, hein, sur moi, l'entrée dans ma vie. Mais par ailleurs, au niveau plaisir et vie ensemble, j'ai un vécu assez exceptionnel à leur côté.
Tes parents, rapidement, ils venaient de quel type de famille ?
Mon père en particulier vient d'un milieu, c'est même pas modeste, un milieu pauvre. Toutes les générations au-dessus sont des générations de domestiques. Et je pense que mes parents ont plutôt aussi exécré certains modes de vie parce qu'ils ont quand même vu ce qu'était la soumission quand on vient de milieu modeste. Et je pense qu'ils ont dû se dire dans le deal... Eh ben, ok, on va peut-être pas palper, et ils avaient peut-être bien conscience que quand même le gap se ferait pas en une génération, mais par contre qu'ils sacrifieraient pas leur liberté. Je pense que c'était ça leur luxe.
Et ta mère ?
Et ma mère était esthéticienne. C'est un profil d'esthéticienne qui a détesté le milieu de l'esthétique, et elle vient d'un milieu très modeste aussi, elle était à la rue à 14 ans, sa mère s'en occupait plus, enfin c'est des histoires familiales qui sont même pas présentables, tant c'est compliqué, entremêlé, c'est bordélique. C'est des gens qui par contre avaient en respect l'école publique, et c'est un trait du nom dans nos parcours à tous, c'est que l'école publique à tous nous a fait quand même gaper, monter, et petit à petit sortir la tête de l'eau.
Donc pas envie de s'attarder sur l'argent, pas envie que ce soit un sujet.
Ouais, pas envie, et moi je rajouterais, je pense qu'ils savaient pas aussi.
Ouais.
Je le vois faire aujourd'hui et je pense que c'est pas le bon disque dur, pas le bon logiciel. Je pense que même s'il avait eu envie, je crois qu'il avait quand même pas les méthodos, les clés de compréhension, des rouages en fait, de ces mécaniques de positionnement ou de rationalisation aussi. De sa matérialité, etc. Je crois que c'était pas de l'envie.
À quel moment, toi, tu t'es dit « Tiens, je vis pas tout à fait comme mes copines ?»
Assez tôt. Déjà au collège, je vais chez les autres et les intérieurs détonnent avec mon intérieur. Et en plus, moi, je prends beaucoup de plaisir à aller chez les autres. J'adore manger avec ces petits couverts, tous ces accessoires. Je trouve fascinant tout ce qui peut composer une maison. Je me rends compte de ça. Ça, je me dis, tiens, c'est pas tout à fait comme à la maison. D'ailleurs, quand les gens, mes amis viennent à la maison, ils me le signifient aussi.
Toi, ta maison, elle est nue.
Bah, elle est très, très ras du sol. Donc, comme il n'y a pas de meubles, bah, les choses sont très basses, très abaissées. Il n'y a pas de répartition de spatialité comme dans une maison conventionnelle. Une maison conventionnelle, bah, il y a un salon, il y a des chambres. Voilà, il y a une salle de bain, etc. Bon, la salle de bain et la cuisine, c'était clair. Le reste, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai une passion aujourd'hui pour ma chambre, parce que ma chambre, c'est là où il y a un matelas, et j'ai quand même un truc avec les matelas, parce qu'en fait, on a tellement évolué dans ça que j'ai un plaisir total aussi à être dans un truc comme ça, hyper lax, parce que chez eux, tout était un peu comme ça. Sur des photos que je classais il n'y a pas très longtemps, je retombais sur un de leurs salons. Il y a un salon, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Il y a une table. Il y a une table et il y a des cartons sur le côté qui sont pas défaits et qui, je pense, le seront jamais. Et j'ai toujours entendu mes parents dire « il faut qu'on puisse bouger vite ». Et après, j'ai aussi des cycles où par moment comme ça, j'ai souvenir que je dis à mes amis « merde, mes parents ont un problème, il y a un problème d'argent, en ce moment, je peux pas avoir ça, je peux pas m'acheter ça, je peux pas vous suivre sur tel et tel truc ». Et j'ai une amie qui me dit régulièrement « t'inquiète pas, ils s'en sortent toujours ». Donc ça veut quand même dire que déjà à l'époque, il y a une occurrence et il y a une répétitivité de moments de down et de moments où ils se régénèrent. Avec le recul, je pense que ma mère a eu guetté quelques fois qu'à la porte, il n'y ait pas un huissier. Elle se met à faire silence, à éteindre les lumières. Donc, il y a quelques fois quand même, je pense que c'est allé assez loin. Et je les entends aussi souvent, des phases le soir, beaucoup discuter et chuchoter. Et quand j'arrive, ils se taisent. Donc, il y a quelque chose qui est caché. Et ça, je le capte.
Ils ne parlaient pas d'argent avec toi ?
Non. Ils me disent tout le temps que c'était... ça ne me regardait pas, que c'était des affaires de grands. Sauf qu'on était un trio et on était très imbriqués. Donc, en fait, c'est vite devenu mon affaire.
Tes parents, ils mettent une attention quand même sur l'apparence, sur les vêtements ?
Non.
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 Parce que ta mère était esthéticienne,
ouais.
Donc...
Non, pas du tout. Mais ils exècrent le matériel. Hein. Donc, par exemple, quand moi, je veux des godasses Nike, c'est compliqué hein, de les avoir. Il faut les poncer, il faut les travailler au corps. Et ils ont d'ailleurs pas la notion des marques. Par exemple, je veux un téléphone Nokia qu'on a tous voulu dans les années 2000. Et je vais avoir un Bay SFR qui me convient pas du tout, un Alcatel. Mais pour eux, un téléphone portable est un téléphone portable. Et ils ont pensé me faire hyper plaisir ce jour-là. Et je me souviens que moi, je bouillonne. Ça me va pas du tout. C'était pas du tout la même chose. Et pour eux, c'est la même chose. Et là, il y a un point de rupture aussi sur tout ce qui va être les codes aussi de société dont ils n'ont que faire. Aujourd'hui, je dessine des lignes de mobilier, je dessine pour des grandes marques. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'allonger sur un divan pour faire le lien. J'ai souvenir que quand j'apprenais à dessiner ado, je dessinais des pubs Dior. Bon, bah, ça va être un de mes premiers employeurs. Et sur le coup, je le fais inconsciemment. Avec le recul, je me dis, oh là là, mais c'est tellement lisible.
Ça a dû les rendre dingues.
Ça les a rendus dingues.
Tous ces efforts ou ces non-efforts, enfin, on va dire... Tous ces efforts dans la pour enfin bon on se comprend
ouais ouais
pour finir avec une fille qui dessine des pubs Dior
et même pire, ma mère étant dans l'esthétique, je vais aussi énormément dessiner pour le groupe L'Oréal.
Ah ouais.
Et pour elle, c'est quand même c'est loin d'être anodin. Donc ça c'est un moment particulier. Ils vont autant être interpellés que hyper fiers et fascinés, et ils me diront longtemps on n'aurait jamais su faire ça. Et quand je raconte mon quotidien professionnel, ils me soutiennent, ils me portent, mais ils me disent « on ne sait pas, on ne connaît pas ». Mais il y a un moment donné, je quitte notre monde et je passe dans un autre monde. Il y a vraiment un changement là-dessus de milieu total.
Tes parents, est-ce qu'ils ils essayent un peu de t'encourager, de te dire « bon, ce serait bien que tu vives comme nous, regarde notre choix de vie, il est bon ». Ou bien tu les sens contents à l'idée de voir que t'es pas tout à fait comme eux.
C'est vrai qu'en entendant cette question, je me dis ils auraient complètement pu faire ça. Je les remercie, ils l'ont pas du tout fait. En fait, moi, je partais d'une page vierge, donc je pouvais devenir qui je souhaitais. La seule chose qu'ils m'ont demandé d'être, c'est d'être autonome. C'était hyper important.
Donc, ne pas bosser pour une entreprise.
Alors ça, ils me l'ont jamais induit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis indépendante, donc on reviendra dessus, mais on n'échappe pas à son destin. Donc c'était hyper important quand même pour eux que, quel que soit mon chemin, je puisse me faire face. C'est fais ce que tu veux, mais est-ce que t'es dans ton chemin ? Est-ce que c'est ta décision ? Sois pas sous la coupe de quelqu'un. La liberté à ce niveau-là.
Toi, t'as décidé de faire des études. Est-ce que ton choix d'études a été orienté par l'envie de bien gagner ta vie ? Et aussi, comment est-ce que tu as pu faire des études ? Parce que les études, ça coûte cher.
J'étais hyper à l'aise sur ce qu'on appelle aujourd'hui un profil littéraire. Donc, était à exclure des choses très scientifiques où j'avais un énorme déficit. Et petit à petit, moi, j'ai eu quelques rencontres, des profs notamment, qui m'ont à un moment donné quand même deux, trois tips et qui ont commencé à me parler de certaines écoles qu'à la maison, on ne connaissait pas du tout. Et mes parents étaient chouettes, ils ont fait le jeu de chercher avec moi. Et on a compris qu'il y avait une super belle créativité, mais au service de l'industrie. Donc petit à petit, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai passé les concours, ça a marché. J'ai fait l'école Boulle, qui est le genre de concours épouvantable où il y a 2% d'admission. Je pense que je me rendais pas du tout compte non plus dans quoi je mettais les pieds. Ce que je savais, c'est que c'était des métiers d'excellence, que c'était identifié comme quelque chose qui avait une valeur et que c'était référencé. Et ça, pour moi, ça avait de la valeur. C'était important. Boulle, c'est gratuit et c'est une école, c'est une des rares écoles, grandes écoles françaises qui sont complètement gratuites. Et ça m'a sauvée, hein, parce que sinon, c'était impossible. Mes parents, ils auraient jamais pu suivre et j'aurais fini à la fac. Là, moi, j'étais rentrée dans une machine. J'avais compris que j'avais mis le pied dans la porte d'un autre monde. Et là, moi, j'ai bourriné trois fois plus que les autres. Surtout que j'avais du retard à rattraper parce que culturellement, la plupart des enfants qui viennent dans ces écoles sont soit d'un milieu de prof, donc super méthodologie, soit d'un milieu créatif, d'architecte, de designer. Donc, ils ont déjà le goût de ces choses-là. Donc, quand vous venez d'un lieu où il n'y a même pas de meubles et que vous choisissez l'option design mobilier, c'est quelque chose. J'étais très très loin de ça et j'ai commencé à dévorer des expos, des livres. Mes parents ont fait aussi ce qu'ils ont pu. Ils m'ont fait répéter 15 fois des oraux, des présentations. Franchement, on a mouliné comme on a pu. Mais à un moment donné, moi, j'ai aussi complété avec des jobs à côté. Parce qu'en fait, quand bien même c'est gratuit, il y a du matériel hein, à acheter. J'ai été identifiée par une prof qui a repéré que je tirais la langue pour acheter mes feutres. Et qui m'a mise en contact avec l'assistante sociale de l'école et elle m'a sauvée. Je suis devenue boursière cinquième échelon. Et là, j'ai toute une aide qui s'est mise en route. J'ai eu les APL. Ça m'a soulagée et je complétais avec des jobs classiques de babysitting que je faisais le soir. Et en fait, il s'est trouvé que comme je faisais énormément de babysitting, bah en fait, c'était canon. Moi, je bossais jusqu'à minuit tous les soirs quand les bébés dormaient. Et j'ai pris de l'avance sur les autres à ce moment-là.
Tu sors de l'école Boulle, t'as quel âge ?
J'ai 23-24 ans et j'ai le groupe L'Oréal qui me propose de devenir designer pour sa marque numéro 1 en termes de rentabilité et chiffre d'affaires. J'ai démarré chez Lancôme et c'est leur fleuron, c'est la marque, c'est la cash machine de L'Oréal. C'est hyper rentable. Là, je monte les échelons, mais on est sur un parcours cadré de carrière et d'une projection qui pourrait dérouler longtemps derrière. Et ça se passe bien, et ça se passe très bien. C'est des milieux qui m'ont très bien accueilli, malgré mon inculture. Je trouve le salariat plein de vertus, pour plein de raisons. Et j'ai aimé mes années à leur côté, et je leur dois beaucoup, parce que ça a constitué des fondations très solides, mais pas qu'économiques, aussi de comportement. C'est des milieux dans lesquels j'ai appris plein de choses, et notamment à être très structurée et organisée. Et en fait, pour être très libre, j'ai quand même compris qu'il fallait être bien carré. Et souvent, quand on me dit « Ah, je pense que je ferai freelance parce que moi, j'ai besoin de liberté, etc. », je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point pour être indépendant, il faut être hyper carré, hyper verrouillé sur bien des choses, très structuré, très méthodique. Et ça, c'est le salariat et c'est ces structures qui me l'ont vraiment apporté. Et je leur dois beaucoup et je capitalise énormément dessus aujourd'hui.
Alors justement, c'est quoi ta vie aujourd'hui ?
Ma vie aujourd'hui, c'est que je suis aux manettes de mon propre studio depuis 7 ans maintenant. C'est la vie que je m'étais imaginée, elle est comme prévue. C'est une vie où je bosse comme une dératée, mais ma foi, comme je le faisais déjà en tant que salariée. Donc là-dessus, pas de grande surprise. J'ai fait le choix de pas me structurer en agence, donc j'ai pas embauché. Je fais travailler d'autres indés seniors comme moi à peu près tous les jours, entre 5 et 6 personnes, qui sont des gens à qui je délègue des choses que je ne fais plus, histoire que moi je me reste concentrée sur des phases très très créatives et conceptuelles qui me sont propres. Et ma vie aujourd'hui, c'est que j'ai un portefeuille de clients historiques, j'ai que des collaborations de long terme, avec qui, moi, j'ai une grande liberté, mais dans un cadre. Donc, à l'inverse de mes parents, moi, j'ai décidé de rentrer dans un système. Je lui ai quand même trouvé bien des vertus. Moi, je trouve qu'il y a... C'est pas si mal aussi de pouvoir cotiser à de l'épargne dans une entreprise, préparer sa retraite, etc. Donc ça, moi, là-dessus, je suis complètement re-rentrée dedans. Mais par contre, aujourd'hui, je suis indépendante, donc ça veut dire que c'est de la capitalisation 100% privée à ce niveau-là. Mon revenu net de base, c'est 5 000 euros. Et après, j'ai un arbitrage qui se fait chaque année en fonction des choix que moi, je vais opérer. Ça peut être des choix soit de sécurisation, donc puisque chez moi, bah, y aura pas de chômage, y aura pas de retraite. Enfin, tout ça, le collectif ne me le doit pas. Donc, c'est de la capitalisation privée. Donc, chaque année, je me repose la question de ce que j'abonde pour mon compte-retraite, de ce que j'abonde pour une éventuelle perte de mission. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais si à un moment donné, il y avait un déficit, par exemple, moi, j'ai rempli mes caisses et j'ai fait l'écureuil de sorte que je puisse voir venir pendant 1 à 2 ans d'absence totale de rémunération. Les choix aussi que je fais en termes de développement, parce que être indépendante, c'est pas juste, en tout cas dans mon milieu, je ne pourrais pas inlassablement juste refaire les mêmes missions et pérenniser comme ça pendant 10, 15, 20 ans. Faut que je voie loin. Donc j'ai de l'investissement à faire en com, en relations presse. J'ai des gens qui m'accompagnent aussi au quotidien sur les réseaux sociaux, faire vivre des newsletters, la compta, etc. Donc tout ça, c'est des choix que j'arbitre au quotidien. Et en fonction de ce que je fais ou pas, je peux doubler ce revenu. Mais ce deuxième, ce x2, c'est invariable. Donc le fixe qu'il faut retenir, c'est 5 000 euros. Tout est lié à ma force de travail. Donc moi, si un jour je me tape un cancer, congé maternité, petit burn-out, tout ça c'est pour moi. Donc si vous voulez, l'argent que moi je rentre, il n'est pas lisible à l'instant T parce que je ne peux pas supputer de ce qui m'attend. Donc si je déroulais comme ça pendant 15 ans, ouais ok, très riche. Sauf que a priori la vie va mettre son petit grain de sel là-dedans. Donc c'est ma variable de risque. Et pareil, ça va diviser, en fait, peut-être qu'à la fin de l'histoire, tout ça va diviser par 3. En fonction de ce qui se sera joué, puisque moi, le collectif viendra pas à la rescousse.
T'es quand même très en alerte.
Ah ouais. Ça fait pas fille sereine.
Non, ouais. Non. La balance pèse plutôt du côté pessimiste.
Ouais, non, oui, ça, il faut être sincère. Oui, et je pense que c'est... ça, c'est un reliquat du point de départ. Et d'ailleurs, j'ai un conjoint qui me dit souvent « Busquet, stop. Stop. » Ça y est, tu l'as ta noisette, parce que j'ai beaucoup fait l'écureuil. Et il m'a dit, mais t'en es plus à la noisette, t'as gapé. C'est vrai, la première étape, c'était de gaper peut-être au niveau matériel. Maintenant, ça va être de gaper au niveau symbolique. Et la dimension de confiance, elle est en train de démarrer. Mais je suis pas encore au bout de la destination, c'est vrai.
T'es pas encore complètement rassurée.
Non, c'est vrai.
Aujourd'hui, tu vis donc avec ton conjoint, ouais. Avec votre petit enfant.
Ouais.
Qui a
Caïs. Qui a 8 mois.
Qui a 8 mois.
Ouais, tout petit.
Vous vivez où exactement?
Alors, notre base est à Marseille, mais on est tous les trois entre Paris et Marseille. Donc, on a une vie très très en mouvement. On bouge tous ensemble ou chacun individuellement de notre côté. Entre Paris et Marseille en permanence, puisque mon conjoint n'est pas indépendant, mais il a, comme moi, cette dualité entre les deux villes.
Vous avez acheté un appart ?
Ouais, on a acheté un appart à Marseille, mais on a acheté aussi notre base à Paris, qui est une petite base, pour nous permettre de faire tous ces allers-retours, parce qu'on en fait trop souvent pour être juste à squatter chez les amis ou faire du Airbnb. On est dans le troisième.
Ouais.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait exprès d'avoir un très gros contraste, parce qu'à Marseille, je vis dans Strasbourg-Saint-Denis pour les Parisiens, et je voulais pas rejouer la partition à Paris. Donc, je suis allée chercher là où, a priori, ça devait pas se jouer pour moi. Et puis, enchantement d'alignement de planètes, ça a fonctionné sur une histoire assez rocambolesque, mais ça a fonctionné pour nous dans le troisième, là où c'était pas du tout prévu pour. On a 22 mètres carrés.
Pas mal.
Luxueux Byzance.
Vous avez payé combien?
On l'a payé 280 et on a dû injecter 45 000 de travaux, peu ou prou.
Et à Marseille, c'est...
Marseille, c'est 300 000 et peu de travaux. Je pense que moi, j'aurais du mal à vivre ou dans l'un ou dans l'autre des scénarios. On aime souvent dire qu'on a le meilleur des deux mondes et aujourd'hui, c'est un méli-mélo qui nous plaît beaucoup.
Ton conjoint, il gagne bien sa vie ?
Alors, mon conjoint, il est à l'identique de moi sur ma base nette, ma base fixe. Il a un chouï en dessous, il est peut-être à, je dirais, je crois qu'il doit être à 4004 net, un truc comme ça. Donc, on n'est pas loin. On a vraiment deux profils très gémellaires là-dessus, même en termes de moments dans la carrière. Donc, ça, c'est assez aisé pour nous de fonctionner, puisqu'en plus, moi, je suis une folle de l'équité. Donc, c'est super confortable et pour lui et pour moi d'avoir cette espèce de miroir. Après, ça fait 2 ans, moi, j'ai un petit boom sur mon studio. Donc, en fait, ma variable, ça fait quelques années que j'arrive en fait à me l'attraper. Mais voilà, sur notre base garantie, on est très, très en miroir. On est à 2300 net, je dirais, de crédit tout cumulé. Et on arrive à annuler plus ou moins le crédit qui est lié à Paris parce que sur nos moments d'absence, on loue en Airbnb puisqu'on est en résidence principale sur cette partie-là.
Donc, tu as une vie confortable aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Mon père dirait très confortable à ses yeux.
Alors, ça te fait quoi ?
Bah, c'est super. Moi, j'ai pas compris, en fait. Bah, moi, ma conclusion, c'est que, en fait, l'argent et le matériel, ça peut être une super belle source de kiff. Donc, là-dessus, je les rejoins pas.
Tes parents ?
Ouais, mes parents. Mmh. Oui, là-dessus, je rejoins pas du tout. C'est un vrai bonheur aussi, en tant que nana en particulier, de pouvoir rincer les hommes à la maison, de pouvoir aussi faire face à pratiquement tout, de voir rien à personne. On se fait pas seul, ça c'est faux, parce qu'il y a du capital culturel, il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent. Mais en tout cas, sur une partie très matérielle, moi ça c'est quelque chose que je lâcherai pas, et c'est une vraie source d'enthousiasme et de bonheur que d'être... aussi à l'aise, voire plus que la plupart des hommes qui m'entourent. Et là-dessus, en plus, dans mes amis, je me retrouve pas du tout. C'est un modèle assez rare, malgré tout. Je sais pas pourquoi les femmes se saisissent pas plus de ce pouvoir, parce qu'en fait, c'est une vraie option. Dans le bilan, cela dit, je comprends ce qui a été interrogé par mon milieu de départ sur les schémas. Et c'est vrai que moi, la première, je m'ennuie très très vite des vies ordinaires et des vies banales et conventionnelles, et je comprends complètement ça. Je comprends que ça a été interrogé. Je comprends la tentative aussi d'expérimentation, de mettre en place d'autres modèles. Et là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment des imaginaires à reboiser parce que globalement, j'ai le sentiment que c'est assez ennuyeux ce que je vois autour de moi, dans les façons de vivre, etc. Et dans les craintes aussi des gens. Il y a peu de créativité et je donne raison là-dessus aux darons.
Ton rapport à l'argent avec le fait d'en avoir, est-ce que tu trouves qu'il est devenu d'un seul coup fluide ? Est-ce qu'il est apaisé ou est-ce qu'il est encore source d'angoisse ?
Non, moi là-dessus, c'est un bonheur. Après, j'ai des réflexes, je suis pas sûre que je les perdrai. Je fais partie des gens qui regardent tous les jours leur compte bancaire. Je sais pas ce que je regarde d'ailleurs. Des fois, je me raconte que je vérifie qu'il n'y ait pas une infraction, une fraude, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai. Donc, comme on se le disait, la sérénité, c'est pas pour tout de suite. Je me souhaite que ce soit le cap d'après. Mais par contre, l'argent, c'est une source de joie, hein, très clairement pour moi. Et j'ai un rapport sur certains sujets complètement débridé à l'argent. Le cap écureuil, c'est réglé. Donc maintenant, place au bonheur. J'ai aucun souci à sortir des grosses sommes ou des gros volumes d'argent pour des choses qui, par ailleurs, dans mon milieu, n'étaient pas estimées. C'est pas mon histoire. Par exemple, j'ai un plaisir personnel à inviter régulièrement mon père et mon conjoint à des restaurants. Ben, ça peut coûter 1000 euros. Je les rince avec plaisir.
C'est des très bons restos.
Des très bons restos. Et c'est pas tous les jours, hein. Mais c'est une tradition qu'on a instituée, par exemple, à faire ça quand je fais des bonnes années. Je me dis pas aïe aïe aïe, au contraire, je me dis chouette, c'est trop bien, on a pu passer ce moment ensemble et c'est grâce à cet argent que j'ai gagné par ailleurs, toute seule comme une grande. Donc j'en requiers beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Le regard de ton père sur tout ça, il est comment ? Est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'il te voyait un peu comme une vendue au grand capital ?
Non, pas vendue, parce que déjà c'est un milieu que j'ai quand même quitté. C'est un milieu dans lequel moi j'ai poussé des idées. Donc au contraire, lui ce qu'il s'est dit, c'est que c'était bien, ça faisait trait d'union entre des mondes qui se parlaient pas. Donc au contraire, il était content de ça. Par contre, très clairement, c'est pas son histoire et moi la sienne n'est pas la mienne. Il y a vraiment deux identités distinctes, mais il y a du respect réciproque. Non, je crois que pas du tout que je sois une vendue à ses yeux.
Vous avez souvent des conversations sur ses convictions et la façon dont ils t'ont élevé, tes parents ?
Oui, souvent. Et c'est intéressant d'ailleurs de les avoir maintenant que je suis parfaitement adulte et qu'on puisse se parler à un niveau dépassionné, au niveau émotionnel. Et puis aujourd'hui, nous, on est amis avec mon père. C'est un type que j'aime bien, même si c'était pas mon père, je le trouverais chouette. Et on s'est dit les choses. On s'est dit les choses et il a conscience de l'instabilité que ça a, la fragilité malgré tout que ça peut amener aussi cette absence totale d'argent pour un enfant. Il l'a bien compris. Et à l'inverse, il comprend aussi pourquoi moi j'ai décidé de fonctionner autrement. Et par exemple, maintenant que j'ai un enfant, il observe ce que je mets en place pour ce bébé. Je pense qu'il réalise tout ce que du coup il n'avait pas structuré.
Ce que tu mets en place matériellement?
Ouais, par exemple, on a déjà mis en place un petit compte où on lui provisionne tous les mois des poches, parce qu'en fait, de toute manière, des poches d'argent, parce qu'en fait, de toute manière, un jour, cet enfant, bah, il va devoir se loger, au moins le temps des études, et c'est pas la peine d'attendre. On le sait, ça va venir. Donc, on le met tout de suite de côté, de sorte de pas avoir à se poser cette question dans 20 ans. Et ça, c'est vrai que ça lui est étranger, et il nous dit, bon, en vrai, c'est super, c'est bien de faire ça. Parce que avait contracté un petit crédit à un moment, que je me suis récupérée. Je pense que c'était pas énorme. Je pense à représenter à l'époque 5-6 000 euros qu'il fallait sortir pour une année. Ils l'ont pris en crédit, ça leur en a coûté 8. Et au final, c'est moi qui ai fini de payer ce crédit quand j'ai démarré professionnellement, puisque j'ai tout de suite bien démarré. Bon, ça, je pense que si on peut l'éviter, c'est aussi bien. C'est pas passionnant de démarrer à payer un crédit qui est un reliquat de la fin de ses études que les parents n'ont pas terminé.
Il y a pas mal d'enfants qui empruntent pour se payer des études.
Oui, parce que peut-être que l'école qui fait référence est par ailleurs privée. C'était pas mon cas dans mon schéma et je m'étais quand même défoncée pour atteindre que des écoles gratuites. Donc bon, à un moment donné, si même 5000 euros pour juste une année dans un parcours, tu les as pas, et que par ailleurs, moi j'étais quelqu'un qui était très responsable et qui amenait tout l'argent que j'ai pu ramener, je l'ai ramené. J'ai moi-même payé mes protos de fin d'études, parce que en fait, à la fin, il faut quand même les payer, ces choses-là. Et je suis allée faire une petite levée de fonds pour trouver 5000 euros pour payer mes protos en bois. Donc, en fait, il y a quand même 2-3 poches. C'est cool de les anticiper parce que quand bien même on a un enfant hyper responsable ou full école publique, bah, y a des frais. Il y a des frais inévitables.
Est-ce que tu as déjà aidé tes parents?
Non, parce qu'ils ont eu l'élégance de ne pas me laisser de dettes. Donc, à minima, ils seront à zéro, mais ils ne seront pas en dessous du niveau de la mère. Et ça, je les remercie. Je ne partirai pas avec des dettes. Je partirai avec zéro héritage, mais pas de dettes.
Ton père, il vit comment aujourd'hui?
Et ben aujourd'hui, mon père est mon locataire, puisque j'ai acheté sa résidence principale. Et du coup, ben, il a sa retraite. Il a une retraite dans les moyennes de ce qui se fait, donc clean. Et c'est mon locataire. Donc voilà, moi j'ai acheté sa résidence principale il y a 10 ans.
Où ça?
Il est pas très loin de Marseille, sur la Côte Bleue.
D'accord.
Et ben, il est bien, il est content, il remercie.
Et il te la loue, la
ouais,
maison?
Ouais, ouais, il me la D'accord. loue, exactement. Bon, il a un crédit, enfin je lui fais le prix du crédit. Il n'y a pas de gras dessus, mais voilà comment l'affaire s'est bien terminée.
Donc, tu as fait en sorte quand même de mettre ton père à l'abri.
Ouais, parce qu'à un moment donné, c'était une charge mentale, ça me prenait la tête. J'avais besoin de pouvoir démarrer mon histoire et je voyais bien que eux, bah, en fait, il y avait un moment donné, ils allaient perdre en force de travail parce qu'ils allaient avancer en âge et que la retraite n'allait pas être là. Donc, j'ai capté ça et je leur ai dit, bon, bah, moi, ça fait 2 ans que je bosse, j'ai assez pour débloquer un crédit, venez, je vous loge, on en finit avec cette histoire, vous avez une maison. Et moi, par ailleurs, je veux bien que ce soit un lieu super beau où j'aurai plaisir à venir en week-end. Et on a fonctionné comme ça, sur une espèce d'inter-imbrication d'intérêt, on va dire. Et il est super content et il est là aujourd'hui. Et c'est pas Byzance, hein, c'est un petit lieu, hein, c'est pas très très grand, mais il y a tout ce qu'il faut.
Chez sa fille.
Et il est chez sa fille. Je suis une super propriétaire. Très sympa.
Et c'est une posture surprenante, comme cette posture, parce que aider ses parents, ça arrive souvent plutôt autour des 40, 50. Toi, tu les as aidés assez jeunes. Enfin, t'as aidé ton père assez jeune.
Mais quand même, mutualisation d'intérêts. J'ai pas donné de l'argent.
Ouais.
J'ai gardé la main dessus, c'est mon bien, ça me reviendra, c'est ma logique immobilière d'investissement, ça sert mon projet de vie. Je me suis pas sacrifiée, je l'aurais pas fait si c'était pas au service de mon propre projet. J'aurais pas fait de don.
C'est très verrouillé tout ça, tu penses loin, tu mets les choses en place, hein. T'es très organisée.
Je peux être coupable complètement là-dessus. Ouais, complètement.
C'est quand même l'opposé de tes parents.
Complètement.
Est-ce que tes amis connaissent ton histoire?
Non, je pense qu'ils ne mesurent pas. Ils ont identifié mes parents comme des joyeux saltimbanques. Je pense que c'est l'idée qu'ils s'en font. Mais d'une façon générale, c'est des choses que j'aborde avec grand plaisir si ça s'y prête. Mais en fait, ça ne s'y prête pas souvent. Je pense que ce n'est pas si simple de comprendre tout ça et de comprendre qu'on a été par ailleurs très heureux malgré tout. Et d'ailleurs, nous, dans notre famille, je me souviens, ça a été des grands débats, la vie de mes parents. Est-ce que c'était sérieux pour moi? Est-ce que je pouvais me développer correctement? Dans la famille, par exemple, de mon père, s'est beaucoup posé la question de quel allait être mon parcours, en fait, au milieu de toutes ces choses, a priori, assez déstructurées, malgré tous ces chemins de traverse, ces choses assez conventionnelles, ben, ma foi, ça roule très bien pour moi. Donc, je pense que lui, sa conclusion, c'est, ben, vous voyez, de la créativité, il peut sortir de tout, tout. Ouais, je pense que c'est ça.
Aujourd'hui, tu te vois comme une... on va dire ancienne pauvre,
ouais,
ou une nouvelle riche.
Moi, j'ai le sentiment d'avoir changé de monde, hein, clairement. Donc, je me vois entre les deux mondes. Et je pense que je terminerai entre les deux mondes. Et c'est pas forcément un problème. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien naviguer dans les deux. Je me sens très proche, très au contact de sujets, de société, de gens qui sont dans des vraies difficultés. Et ça fait partie aussi de sujets que moi je traite dans mon studio. Je dessine pas que pour des très gros. Et c'est un choix délibéré. Et je suis très intéressée aussi de ce qui se passe dans des milieux très aisés. Parce que par ailleurs, il y a des choses assez passionnantes à y voir. Donc moi, je me situerai vraiment au carrefour des deux.
Merci Eki.
Merci beaucoup.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.